Et Cécile, c'est ma fille. Voilà, c'est un peu facile.
C'est aussi un personnage.
C'est un personnage. Bon, on fait référence à Conan, on fait référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est référence aussi à John Appleton. Alors, c'est un musicien, un compositeur américain qui n'est pas très connu, qu'on ne voit plus souvent en France. Et qui, lui, œuvrait dans la première électronique numérique avec une grosse machine qui s'appelait le 5 clavier, donc une grosse machine, un gros synthétiseur. Et avec cela, il faisait une musique vraiment qu'on appelait à l'époque, que j'appelle toujours, de l'ordre de la simplicité. C'est-à-dire qu'il est revenu à des accords parfaits, très provoquants, finalement, dans les périodes années 82, dans une certaine période de la musique contemporaine. Et je veux dire, c'est pas par hasard que c'est dédié à John Appleton et aussi à Raymond Queneau. Alors, Raymond Queneau, c'est plutôt une référence avec Christian Dartin, si j'ose dire. Enfin. Et John Appleton, c'est ma référence, là. Alors, ça renseigne pas tant que vous n'avez pas écouté la musique de John Appleton. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'était à l'époque une période, on allait dire, militante de ma part et celle de Christian aussi, à l'écoute d'une certaine musique contemporaine. On avait un jeu de mots sur le général Cluster, avec la musique contemporaine qui œuvrait dans des clusters, mais finalement très, très tyrannique et très académique. Donc c'était comme ça une boutade de notre part, et de ma part en tout cas, pour combattre cet académisme-là, mais de refaire des notes, comme on pourrait dire, tranquillement. Voilà, et très consonantes.
La seconde pièce présentée, c'est une création, c'est Springs Hotel. Et là, il est question de géographie, en particulier d'un hôtel qui se trouve dans un état, je me souviens plus du nom, au Canada, qui abrite des sources chaudes dans un pays froid.
Là, oui, c'est quelque chose de très, de très traditionnel. Je dis dans un papier que c'est vrai que je fais référence là. C'est ça aussi, c'est du domaine qui peut paraître pas de la redondance, mais en tout cas là, de la simplicité par rapport à des émotions liées à des lieux. C'est pas que des émotions liées à la géographie, elles liées. Mais ça a été un partage avec pas mal de personnes qui étaient sur le lieu aussi de se trouver dans ces mêmes émotions-là par rapport à cette géographie-là et par rapport à cette histoire-là du moment, quoi. Voilà. Donc j'en parle au niveau de Palmyre et du désert syrien. Mais enfin, ça m'aide un peu, si. Pour ne rien cacher, quand j'ai fait les Aubrac autour, en Lozère, on va dire, pour simplifier. Donc, il s'agit à la fois du granit et du calcaire. Il s'agit donc du lisse et du rugueux. Et ce qui permettait, mais tout bêtement, dans une application premier degré, de faire à la fois des sons très rugueux, qu'on appliquait, par exemple, à tout ce qui était les percussions, et des sons très lisses, elles pouvaient faire les synthétiseurs déjà à l'époque, voilà. Donc c'est ces mélanges de matières, là, c'est ces mélanges de chocs, et donc ça m'aide, je veux dire, au premier degré, quand on est en studio, c'est une musique de studio quand même, bon, c'est acoustique, et il est question de piano, il est question d'interprétation traditionnelle du piano, mais une musique de studio, il n'y a pas d'études qui sont faites. Est-ce que vous avez déjà vu épier quelqu'un qui travaille en studio? Regarder à travers la vitre, etc. Mais quand il travaille aussi bien pour faire de la reproduction sonore, s'il est ingénieur du son par exemple, que s'il est en acte de création, on a un corps qui est malheureux, mais enfin, il est distordu un petit peu. Les relations entre le geste et le son, elles sont encore tout à fait bizarres, je pense. Donc, de travailler sur ce naturel cru. Je crois que ça m'aide beaucoup dans des attitudes que je trouve aussi artificielles en studio. Je ne vais pas changer de discussion, mais est-ce que vous avez vu La Guerre des Étoiles?
Oui.
Non. La Guerre des Étoiles, quand Lucas a fait ça, il connaissait un compositeur qui était californien à l'époque, qui bricolait, on disait ça avait des Revox, et qui s'était retiré, qui composait plus, qui s'était retiré au Mexique, pas loin du studio non plus. Et il avait un problème, Lucas, pour le son des épées, des laser épées. Vous vous rappelez ce son, et qui était très très beau à l'époque. Lucas est allé voir son vieux pote là, qui traînait dans le désert. Il a dit, tu peux me faire un son avec ça? Et ce gars-là, il s'est remis à faire du son. Et il a tout bêtement fait avec le magnétophone à bande à l'époque. Il avait des sons. Et il faisait passage sur les têtes de lecture, fait, jusqu'à ce qu'il trouve le son. Et tout le son. Ça, c'est fait comme ça, par rapport à cette grosse production-là. Là, il y avait une relation entre le geste et le son. Je pense que c'est pas pour ça, d'ailleurs, que ça a beaucoup plu à niveau populaire aussi, ce son qui était à la fois simple et à la fois inouï.
Et donc, Springs Hotel, c'est une relation entre le geste et le son.
Ah, je l'espère, parce que alors là, elle est première, vous verrez, c'est un disque clavier. Alors, il faut parler un peu, je crois quand même, les musiciens connaissent ça, à la fois la norme MIDI et le disque clavier, qui est un clavier acoustique, mais qui a des senseurs MIDI. Donc, effectivement, le pianiste, lorsqu'il joue, il peut déclencher d'autres événements, ou le piano peut jouer tout seul aussi, mécanisé à la moderne, je dirais. Donc, effectivement, là, il fait un double geste. Il peut avoir un geste de legato, enfin, très traditionnel, que peut faire un interprète. Et ça, on est prêt à le comprendre. Hein, c'est facile, même pour les gens qui ne sont pas musiciens. On reconnaît un legato dans un legato. On apprécie entre le geste et le son, ça, très rapidement. Même si on a eu une inculture musicale, comme certaines personnes disent, et je pense qu'ils ont tort. Et moi, ce que je vais m'attacher, en tout cas, c'est que lorsqu'il va déclencher forcément autre chose par les vertus de la technique, c'est que c'est aussi cette même logique. Alors ça, c'est ambitieux. Hein. Alors ça peut être au niveau de l'humour. Hein. Si jamais vous appuyez sur un mi, ça fait un mi, ça peut faire sur un synthétiseur un mi, et puis ça peut avoir un mot de chasse d'eau. Il n'y a pas de raison hein, de faire dans le texte avari. Mais aussi, il peut y avoir d'autres sons. Voilà. Et c'est ce mélange-là, mais j'espère qu'il sera perçu. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je teste toute la journée. C'est pour ça que j'arrive pas à... musique, sont toujours filmées au dernier moment, parce que je crois que c'est le grand doute, en tout cas, sur l'honnêteté entre le geste et le son. Peu importe que la musique soit réussie ou ratée, mais ce qui est une honnêteté entre ça, c'est-à-dire pour éviter, c'est-à-dire la schizophrénie du studio. C'est des grands mots, là, mais on en est là, hein, on peut s'échapper en studio. Donc se raconter des histoires avec les sons, on les triture, ils vont loin, et puis on sait plus où on en est, mais on se fait son propre cheminement. Bon, il peut être poétique, bien sûr. Quelqu'un en a bien parlé, ça c'est Stockhausen. C'était au début des magnétophones, donc il disait, je rentre en studio avec tout le discours un petit peu étoilé, je dirais, de Stockhausen. Je rentre en studio, alors je mets une bande en 38 cm/s, je l'accélère, je vais à 76 parce qu'il y a des magnétophones, puis je l'accélère encore, alors ma matière, finalement j'entends plus que du souffle, et puis j'arrive dans les étoiles, je vois un fourmillement et compagnie. Bon, alors, il y avait tout un discours, mais qui était très très honnête, qui paraissait à la fois très naïf et très honnête par rapport à cette manipulation des murs, je crois, quelque part.